Voix Afrique, les infos. À Washington.
Chérubin, Gabi, Dorsil, 17h dans la capitale américaine, 22h à Libreville, où règne un calme tendu en attendant la proclamation des résultats de la présidentielle. En début d'après-midi, l'ancien patron de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, s'est autoproclamé président élu. Pas longtemps après, le président Ali Bongo Ondimba a réagi, Idriss Fall.
Quelques heures après, à quelques encablures de la maison de Jean Ping, le président sortant Ali Bongo a rassemblé ses militants au jardin botanique, lui, pour dire qu'il est confiant, qu'il attend les résultats et remercie ceux qui ont voté pour lui. Donc, quelques heures plus tôt, Jean Ping, qui avait rassemblé ses militants dans une maison privée au cul de Jean Ping, président, lui s'était déjà proclamé vainqueur. Mais ce qui est sûr, et jusque-là, aucun résultat officiel n'est proclamé, la Sénat, pour le moment, dit continuer de rassembler les résultats et pourrait peut-être demain donner des premiers résultats. Et le ministre de l'Intérieur lui promet, parce que c'est la loi qui oblige, d'annoncer les résultats mardi, c'est-à-dire 72 heures après le scrutin.
Y a-t-il des risques de dérapage ou de conflits post-électoraux à cause des déclarations de Jean Ping et du camp du président Bongo?
Je pense qu'on le saura dès demain, avec peut-être l'annonce des résultats provisoires par la CENAP, et bien dès mardi au plus tard, par l'annonce officielle des résultats par le ministère de l'Intérieur.
Comment Libreville dort ce soir?
Tous les magasins sont fermés, les pharmacies sont fermées. Pour trouver un restaurant pour manger, c'est le parcours du combattant. Les gens ont fait leurs provisions parce que tout le monde s'attend au pire. Les observateurs internationaux, l'Union africaine, tous les représentants qui sont là commencent déjà à lancer des appels au respect du verdict des urnes, mais on ne sait pas ce dont demain sera fait.
Suivez tous les reportages d'Idriss Fall et d'autres nouvelles du Gabon sur voafrique.com. Le nouveau gouvernement d'union nationale en Tunisie prend ses fonctions après une cérémonie de passation de pouvoir entre l'ex-premier ministre Habib Essid et son successeur Youssef Chahed. Au moins trois défis majeurs attendent cette nouvelle équipe au pouvoir à Tunis.
Le premier, c'est le défi du terrorisme. C'est la lutte contre le terrorisme, puisque la Tunisie a été sujet de plusieurs attaques depuis quelques années. Et puis, il y a le défi économique. Et puis, il y a le défi de tout ce qui est social, les mouvements sociaux qui sont en train de vraiment d'influencer négativement les activités économiques telles que le pétrole et le phosphate.
Nourdine Bouta, directeur de la radio privée Mosaïque FM, que j'ai joint à Tunis. Le gouvernement nigérian formule de nouvelles propositions pour des pourparlers éventuels sur les otages de Chibok, rapporte l'agence Reuters. Dans une déclaration à la presse aujourd'hui, le président Muhammadu Buhari s'est dit prêt à laisser Boko Haram choisir un organisme sans but lucratif comme intermédiaire dans toutes les discussions sur la libération d'environ 200 écolières enlevées en 2014 dans le nord-est du Nigeria. Les forces du gouvernement d'union nationale libyen ont lancé la dernière phase de l'offensive sur les positions encore contrôlées par le groupe État islamique dans son bastion de Sirte. Le secteur privé japonais a signé aujourd'hui 73 accords commerciaux avec des sociétés africaines dans l'objectif d'accélérer le développement sur le continent de la transformation des matières premières et de la manufacture.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Dans le reste du monde, la Colombie vit des moments historiques. Le gouvernement vient de signer un accord final avec la guérilla des FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie. Cet accord sera soumis à un vote populaire le 2 octobre. Et ce dimanche, le président Juan Manuel Santos a appelé ses compatriotes à dire oui à l'avenir, oui à la paix lors de ce référendum. Des dizaines de personnes ont été tuées dans le nord de la Syrie par d'intenses bombardements de l'armée turque dans son offensive visant à la fois les djihadistes et les Kurdes. Une ONG parle de victimes civiles. Ankara évoque la mort de combattants kurdes et pro-kurdes. Entre-temps, souligne l'AFP, c'est l'incertitude concernant Alep, deuxième ville de Syrie, après l'appel de l'ONU aux belligérants à instaurer un cessez-le-feu humanitaire de 48 heures pour venir en aide à la population assiégée. Voilà pour ce bulletin de nouvelles. Je vous souhaite une excellente fin de soirée en compagnie de VOA Afrique et voafrique.com. Ici Gabi Dorsil.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.